Bonjour, nous sommes jeudi le 26 octobre 2017. Deux mois, on mange des restants du réveillon de Noël. Alors, je vous souhaite le bonjour à vous tous. Mon nom, c'est Yvan Deslauriers. En fait, je vous invite ce matin peut-être à une réunion autour de la table de cuisine chez nous, hein, Marie?
Presque.
Parce que Monique est en vacances.
Donc, on est avec Mathieu.
On est avec Mathieu, qui va être témoin de nos discussions autour de la table de cuisine. Mm-hmm. Marie a un café, moi j'ai un chocolat chaud. Comment on fait chez nous, d'ailleurs?
J'attends les restants de la dinde,
déjà. Et on va vous raconter certains des articles qui nous ont vraiment frappés dans nos domaines de choix respectifs. Alors, Marie, qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui?
Alors, d'abord, je vous lis un texte magnifique dans la foulée des hashtags « moi aussi », mais c'est un texte qui s'adresse à un petit enfant.
OK.
Dans un premier temps, ensuite, je vous parle du nombre de classes d'accueil qui augmente de façon impressionnante à la CSPI, notamment.
La CSPI.
La Pointe de Lille, la commission scolaire de la Pointe de Lille.
Pour les incultes.
Oui, c'est ça. Et à la fin, finalement, je vous présente des recettes intéressantes, mais bonnes pour la santé, pour l'Halloween.
Il me semble que ça ne va pas ensemble, ça. Halloween, puis bon pour la santé.
Vous allez voir.
Enfin. Moi, de mon côté, j'ai trouvé trois articles aussi qui m'ont vraiment... qui m'ont fait arrêter et pour lesquels j'ai passé du temps pour bien saisir. D'abord, le vélo, une étude, parce que Monique n'est pas là, alors il a fallu que je trouve quelque chose d'un peu scientifique. Alors, une étude qui montre que le vélo est vraiment une machine anti-cancer. Et ensuite, je vous parle de deux phénomènes, deux événements qui m'ont vraiment beaucoup frappé. Le premier événement, c'est un monsieur qui est parti la semaine dernière vers le Mont Everest. Jusqu'à présent, bon, c'est un peu extraordinaire le Mont Everest, mais ce monsieur-là, c'est parce qu'il a décidé qu'il allait sur le Mont Everest malgré des traitements qu'il a pour son cancer de la peau. Oh. Alors, je vous raconte ça. Et le troisième texte, c'est à propos d'une course dans le bois, mais avec des personnes handicapées qu'on traîne sur des traîneaux, qui ont un nom assez exotique. Ça va te faire rire, d'ailleurs. Je pense que tu connais ce nom-là, mais je t'en parlerai à ce moment-là. Alors, si vous voulez être avec nous pendant notre conversation de table à café, vous restez avec nous pendant la prochaine heure. Alors, c'est moi qui commence et je commence par l'étude scientifique. Ça s'appelle Vélo, machine anti-cancer et ça a été écrit par Nicolas Bérubé dans la presse du 23 octobre, donc tout récemment. Les navetteurs britanniques qui se déplacent à vélo pour aller au travail et en revenir sont 45% moins susceptibles de développer un cancer. Donc, les navetteurs qui s'en vont au travail et qui reviennent, dans une proportion d'à peu près la moitié, 50%, 45%, sont moins susceptibles de développer un cancer. Et ceux qui en développent sont 40% moins susceptibles d'en mourir. Il s'agit des résultats d'une vaste étude réalisée auprès de, puis là, c'est pas une petite affaire, 263 450 travailleurs publiés plus tôt cette année dans le British Medical Journal. Suzanne Larreau, qui est la présidente directrice générale de Vélo Québec, note que se déplacer à vélo permet d'intégrer l'activité physique dans sa journée. Vous n'êtes pas en train de vous dire « il faut que j'aille au gym » et d'avoir toutes sortes de bonnes raisons pour ne pas y aller. C'est déjà intégré dans votre quotidien.
Alors, quand on dit navetteur, ça veut dire qu'on se déplace à vélo. C'est ça?
Les navetteurs, c'est ceux qui vont travailler et qui reviennent
à vélo.
À vélo. L'étude démontre qu'aller travailler à vélo réduit de 46% les risques de développer une maladie cardiovasculaire et 52% les risques de mourir d'une telle maladie. Autrement dit, faire du vélo, on diminue les possibilités d'avoir une maladie cardiovasculaire de moitié. Mm-hmm. Fait intéressant, les auteurs de l'étude sont arrivés à ces constats après avoir ajusté les résultats pour tenir compte de variables comme les maladies de longue durée, l'alimentation, l'indice de masse corporelle, la pratique d'activité physique dans les loisirs et même les risques d'avoir un accident de vélo durant son navettage. Nos constats suggèrent que la santé publique pourrait être améliorée par l'adoption de politiques qui augmentent le navettage actif, particulièrement le vélo, écrivent-ils. Pour Suzanne Larrault, là on est en campagne électorale, pour Suzanne Larrault, cette étude ne changera pas à elle seule le comportement des travailleurs. Si les gens ne prennent pas leur vélo, c'est bien souvent parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité, nous dit-elle. Les arguments sur la santé sont importants pour convaincre les décideurs municipaux, provinciaux et nationaux d'investir de l'argent pour développer les réseaux cyclables et réduire la place de la voiture en ville. Pas l'éliminer, la réduire, pour faire plus de place aux cyclistes. Les gouvernements doivent se réveiller et investir en infrastructures cyclistes. En partenariat avec la Ville de Montréal, Vélo-Québec élabore un plan pour le développement de voies cyclables au centre-ville et Mme Larrault est très optimiste sur les résultats. Et marcher maintenant.
Ben oui.
On a parlé de vélo, mais marcher.
Parlons-en.
Oui. Prends une gorgée de café, là. Marcher pour aller au travail produit aussi des effets bénéfiques, mais moindres que ceux observés pour les déplacements en vélo. Les chercheurs remarquent que c'est sans doute attribuable à l'effort cardiovasculaire moins important des marcheurs, de même qu'à une moins grande distance parcourue en moyenne. Okay. Évidemment, pour produire des avantages significatifs pour les navetteurs qui se déplacent à pied, des distances plus longues pourraient être nécessaires. Mais quand on décide de partir à pied, c'est parce que c'est pas trop loin.
Non, c'est ça.
Sans ça, on prend un autre moyen de transport. Dans la cohorte actuelle, un risque plus faible pour l'incidence des maladies cardiovasculaires n'était évident que parmi les navetteurs qui marchaient plus de 10 km par semaine, équivalent à 2 heures de travail, à deux heures par trajet hebdomadaire en marchant à un rythme typique de 5 km à l'heure.
Quand même.
5 millions. C'est la somme investie par le ministère des Transports en 2017 pour aider les villes du Québec à faire des réseaux cyclables et piétonniers. Le ministère des Transports a un budget de 700 millions et investit entre 4 et 5 milliards par an en route et en autoroute. Mmh. Et là, on parle de 5 millions. Mmh. C'est vraiment plus. C'est une goutte dans un océan de bitume et d'autoroute. Alors, si on pouvait changer ça, ça nous permettrait d'avoir des routes cyclables plus sécuritaires et en même temps nous permettre de favoriser la santé publique.
Oui.
Alors, c'était un article qui est paru dans la presse avec des belles photos d'ailleurs. Ça s'appelle Vélo, machine anti-cancer et ça a été écrit par Nicolas Bérubé. Mmh. Alors, évidemment, Marie, quand on est autour de la table de cuisine puis qu'on mange nos toasts ou on boit du café, on commente l'actualité. L'actualité de la semaine dernière a été assez difficile.
Oui,
des
oui.
Des sujets.
Puis on a encore des échos de ça cette semaine.
Oui.
Donc, un texte dont le titre est « Mon petit poulet, faut qu'on se parle ». C'est un texte de Sarah Poulin-Chartrand qui a été publié sur le site tatribu.com le 20 octobre. Sarah Poulin-Chartrand se présente elle-même comme ceci. Mère de 3 fabuleux êtres humains et amoureuse de ma petite famille un peu chaotique, un peu dépeignée et parfaite comme elle est. Pas l'âme d'une géo, mais capable d'inventer de la magie au détour d'un mardi gris. Accro aux mots et aux sourires d'enfants qui bordent ma maison. Et donc, elle s'adresse à son fils qui a 7 ans. C'est une lettre. Depuis quelques semaines, tu as une amoureuse. J'ai failli mettre des guillemets à amoureuse, mais je me suis retenue, car je prends au sérieux cette grande aventure que tu vis, autant que toi. Tu as 7 ans. Tu es en deuxième année et tu es un grand sensible, un doux, plein d'énergie, à l'imaginaire débordant. Tu as une amoureuse, donc. J'ai été un peu surprise que cette période de ton enfance débute si vite. Ce n'est pas réellement quelque chose que nous encourageons à la maison. Je veux dire, nous vous répétons sans cesse de jouer avec tout le monde que les filles sont vos semblables. C'est une évidence, mais on doit souvent déconstruire ce que vous entendez un peu partout. Donc, non, une amie envers qui tu démontres de l'intérêt n'a pas à devenir ta blonde de facto. Je pense qu'il y avait quelque chose dans l'air dans ta classe dès le début de l'année. Un soudain intérêt pour les filles. Un nouvel ami qui en parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est correct. Tu es fait de rencontres et d'expériences et celles-ci ne se résument pas toutes à notre petit cocon familial. Avant de te dire ce qui me chicote, je veux te dire ce qui me rend fière. Tu n'es pas prêt pour les vrais bisous et tu nous l'as dit. Tu l'as même dit à Lauriane, ton amoureuse.
Oh, okay.
Les prénoms sont fictifs, mais l'histoire est bien réelle. Notons-le. Ça discute ferme dans la cour d'école sur le meilleur endroit pour s'embrasser. Mais toi, tu dis, je ne crois pas que je sois prêt. C'est correct, mon petit chat. Tellement correct. Et quand je t'ai rappelé que Lauriane devrait aussi en avoir envie, tu m'as répondu que ça, tu le savais déjà. Tape là. Mais là, je dois te parler de certains trucs qui m'agacent depuis ces dernières semaines. Tu es un peu trop petit pour que je t'explique en détail ce qui se passe chez les grands depuis quelques jours. Je tenterai de trouver les mots appropriés pour vous expliquer bien vite. Disons qu'un grand ras-le-bol des filles et des femmes se fait enfin entendre, et moi j'ajoute, et de certains hommes aussi.
Oui, c'est vrai.
Un ras-le-bol de choses qu'on nous fait, aux femmes et aux filles particulièrement, qu'on nous a faites et qui font souffrir. Tu aurais le cœur brisé comme moi, de voir toutes les femmes de notre entourage qui ont parlé ou partagé leur histoire. Et oui, ta maman a aussi ses hashtags moi aussi au fond du cœur. Un jour peut-être, je te raconterai. En attendant, je réalise que les graines de l'inégalité sont semées bien vite dans vos petites têtes. Ton ami et toi parliez des filles que vous alliez choisir. Jérémy m'a dit que Lauriane ne l'intéressait pas, alors je pouvais la prendre. Lui, il a pris Magali. Mon cœur s'est serré devant vos choix de mots. Personne ne prend et ne se partage les filles de la classe, mon chaton, surtout pas en se concertant à l'avance, sans en parler aux principales intéressées. Tu m'as aussi dit que vous vous donniez des défis, pardon, pour aller embrasser les filles. Tu n'as pas réalisé à ce moment-là que votre défi, il était pas mal contradictoire, toi qui ne veux pas embrasser Lauriane si elle n'est pas d'accord. Lauriane et tous les amis de la cour d'école ont leur mot à dire sur ce qu'on fait avec eux. Oui, même pour un bisou sur la joue. Les filles qui t'entourent ne sont pas là pour vous amuser et vous distraire. Même en vieillissant, elles ne seront jamais là pour toi. Retiens bien ceci car beaucoup d'hommes, beaucoup plus vieux que toi et pas toujours aussi sages, ne l'ont pas encore compris. Tu sembles parfois inconfortable devant les agissements de Jérémy. Est-ce que je peux lui dire, maman, quand je n'aime pas ce qu'il fait? Resserrement de cœur. Oh oui, tu peux. Quand ça te concerne, et c'est là que ça se corse, quand ça concerne les autres aussi. C'est difficile de se lever pour les autres, mais je pense que c'est la seule façon d'être un humain que je peux t'enseigner. Tu entendras des choses irrespectueuses sur les femmes dans ta vie, et j'ai beau être optimiste, les choses ne changeront pas du jour au lendemain. Tu seras peut-être témoin de choses pires que des paroles. Alors on va se donner des outils pour répondre aux Jérémy qui croiseront ta route, ceux qui considéreront que les filles et les femmes, et moi j'ajoute, ou certains garçons, valent un peu moins qu'eux, ceux qui feront des blagues déshumanisantes dans les vestiaires au secondaire, ceux qui taponneront leurs collègues dans les parties de bureau, ceux qui ne verront plus l'humain devant eux, mais seulement la paire de fesses et de seins. On va apprendre à leur tenir tête et à faire souffler le vent dans le sens contraire, OK? La tâche est titanesque, mon lapin, mais je n'ai pas dit mon dernier mot, et toi non plus, J'espère. Alors moi, je remercie Sarah Poulin-Chartrand pour ce texte et j'aimerais ajouter que Élise Gravel, qui est l'illustratrice qu'on connaît bien dans le monde de la littérature
Oui, c'est vrai.
jeunesse, elle a fait une infographie, en fait une BD qui s'appelle Le consentement expliqué aux enfants et aussi aux grands. C'est formidable en peu de mots, quelques dessins, puis on peut trouver ça facilement sur le web en cliquant Élise Gravel, le consentement, et elle a accepté que ce travail-là soit diffusé partout.
Donc, c'est la source pour des bonnes et sérieuses conversations
avec
nos
enfants.
Enfants, voilà. Pas juste les garçons, ouais. Pas juste les filles, mais les garçons
ouais,
aussi.
Oui, tout à fait.
J'avais pas encore 16 ans, j'étais amoureux. Je la voyais tous les dimanches dans sa robe de satin blanc. Dans le parc, on marchait ensemble, elle s'assoyait sur un banc. J'écoutais le souffle charmant de sa bouche sur mon cou. Elle avait deux fois mon âge, belle comme le printemps. Comme un fruit dont on se lasse, à peine 30 ans. Je m'allongeais à sa place, dans son lit parfumé blanc. Elle avançait gracieusement, glissant de sa robe. Glissant de sa robe, que j'aimais ses yeux félins quand elle me couvrait. Son corps tombait sur le mien, j'étais son homme. Son jeune, son chum, comme un papillon qui naît, allongeant grande mes ailes, sortant de chez elle, ébloui de prendre le vent, plein de tendresse. Je me suis fait mal en tombant, plein de tendresse, mais je me suis relevé. J'avais pas encore 16 ans, j'étais amoureux. Je la voyais tous les dimanches dans sa robe de satin blanc. Dans le parc, on marchait ensemble, elle s'assoyait sur un banc. J'écoutais le souffle charmant de sa bouche sur mon cou. Elle avait deux fois mon âge, belle comme le printemps. Comme un fruit dont on se lasse, à peine 30 ans. Je m'allongeais à sa place, dans son lit parfumé blanc. Elle avançait gracieusement, glissant de sa robe. Glissant de sa robe, que j'aimais ses yeux félins quand elle me couvrait. Son corps tombait sur le mien, j'étais son homme. Son jeune, son chum, comme un papillon qui naît, allongeant grande mes ailes, sortant de chez elle, ébloui de prendre le vent, plein de tendresse. Je me suis fait mal en tombant, plein de tendresse, mais je me suis relevé tout le temps. Ah, ah, oh, oh. J'étais amoureux.
C'était Claude Dubois et sa chanson « Plein de tendresse ».
Et j'enchaîne avec un texte. Mes deux prochains textes, là, c'est par rapport à l'amour de la vie, à tout prix. Cette histoire s'intitule « Il veut gravir le mont Everest malgré un cancer de la peau ». Ça a été écrit par Carl Vaillancourt dans le Journal de Montréal le 20 octobre 2017. Un Québécois abandonne son traitement pour marcher jusqu'au camp de base de l'Everest. Un homme de 39 ans qui a frôlé la mort à plusieurs reprises depuis qu'il a été diagnostiqué d'un cancer de la peau en 2006, vivra son rêve de marcher sur le mont Everest. Diagnostiqué d'un mélanome, une forme de cancer de la peau très agressive, le Montréalais Sylvain Poisson a fait 7 rechutes et les médecins ont cru qu'il allait mourir plusieurs fois.
Oui, parce que 2006, là, ça fait 11 ans.
Oui, exactement. Merci pour le calcul. Mais il faut le garder en tête, d'ailleurs. Entre les traitements expérimentaux aux États-Unis et la souffrance de combattre la maladie tous les jours, celui qui est bénévole à temps plein pour la Société canadienne du cancer n'a jamais baissé les bras au cours des 11 dernières années. Même si les médecins ne lui donnaient que 6 mois à vivre en 2006, il s'envolera cet après-midi, ça veut dire que ça fait, on est le 26, ça fait une semaine environ, vers le Népal pour tenter d'atteindre le camp de base de l'Everest à 5500 mètres d'altitude. Je ne le réalise pas encore que nous partons. J'ai été si préoccupé à me concentrer un jour à la fois que je n'y ai pas pensé. J'ai hâte de le vivre, nous raconte Sylvain Poisson. Pour réaliser son rêve, il devra cesser ses traitements d'immunothérapie pendant les 3 semaines du voyage, ce qui n'a pas fait l'affaire de ses médecins. Le périple de 21 jours que s'apprête à vivre Sylvain Poisson est exceptionnel pour le commun des mortels, mais phénoménal pour un homme qui combat quotidiennement un cancer de la peau, et ce, depuis 11 ans. Le médecin spécialiste en hémato-oncologie de l'Hôpital général juif de Montréal, Wilson Miller, a partagé ses inquiétudes avec son patient avant son départ. Il, le Dr. Miller, a des craintes en raison des protocoles de recherche qui nécessitent des barèmes stricts à suivre. J'amène mon corps à plus de 5000 mètres en plus de sauter un traitement, et ça les inquiète, a rapporté M. Poisson. Même si aucun médecin ne l'accompagnera au cours de son escapade, le Québécois pourra compter sur 2 des 21 membres de son groupe qui exercent le métier d'infirmière. Je vais écouter mon corps. Je me suis entraîné et je suis en forme. C'est ce qui m'a permis de vivre aussi longtemps. Je ne vais pas risquer cela. Si je ne suis plus capable, je vais arrêter avec le sentiment du devoir accompli quand même, à partager l'homme qui s'entraîne chaque jour depuis les 9 derniers mois. La conjointe de Sylvain Poisson, depuis février 2016, Martine Théoret, a avoué que la détermination que démontrait son amoureux est une grande source de motivation pour tout son entourage. « Quand j'ai rencontré Sylvain dans une conférence à Sherbrooke, ma vie a fait un tour à 360 degrés. » Une façon d'appeler ça un coup de foudre.
On pourrait dire 180, puis ça serait correct aussi.
Oui, mais je pense qu'elle était tout à l'envers.
Oui, oui.
Sa façon de vivre le moment présent et ne pas se tourmenter avec demain est remarquable. On oublie d'apprécier ce qu'on a, mais pas lui, a-t-elle raconté. Depuis 8 ans, Sylvain Poisson a récolté des centaines de milliers de dollars dans la lutte au cancer, en plus de sensibiliser des centaines d'adolescents contre les dangers de l'exposition au soleil. Il était un sauveteur nautique pendant toute son adolescence. Il est convaincu que sa nonchalance face à l'exposition des rayons UV du soleil a été l'élément déclencheur de son cancer. 10 ans après la fin de sa carrière de sauveteur, une biopsie d'un grain de beauté sur son épaule a révélé la présence d'un mélanome, un cancer de la peau à un stade avancé et incurable. Il a défié tous les sombres pronostics des médecins, guérissant à chacune de ses 7 rechutes. Selon le porte-parole de la Société canadienne du cancer, André Beaulieu, M. Poisson demeure l'une des pierres angulaires de l'organisme depuis 5 ans. Sylvain est dédié 100% envers la société. Il a organisé tant d'événements et participé à tellement de conférences. C'est un modèle d'espoir pour tous les adolescents dans les écoles qui croient que la crème solaire ne sert à rien.
Alors, on pense à lui, on lui envoie plein d'énergie.
Oui, puis on va suivre, si possible, son périple. Et je pourrais vous revenir avec des nouvelles de son avancée vers... évidemment, il ne s'en va pas jusqu'en haut, mais le camp de base, il n'y a pas grand monde qui peut se vanter d'être allé là.
Non.
Alors, il nous reste deux petites minutes avant l'arrêt. Alors, Marie, tu as une petite brève.
Alors, du 21 au 28 octobre, on est en plein dedans, c'est la semaine des bibliothèques publiques. Pour avoir accès à la programmation tous les jours, partout au Québec, dans les bibliothèques publiques, il y a des activités. Donc, on peut aller sur le web programmation2m.semaine-des-bibliothèques.ca. Et saviez-vous, une statistique, 95,7% des Québécois ont accès à une bibliothèque publique dans leur municipalité et il y a 1055 bibliothèques publiques. C'est quand même pas rien.
Oh,
moi, je trouve ça assez remarquable.
Ben, quant à être dans des chiffres, je te propose un autre chiffre. 2000? Oui, 2000 kilomètres. C'est le chiffre de la semaine. C'est la distance entre le point le plus nordique du Québec, c'est le cap Wolstenholm, et la frontière des États-Unis, 2000 kilomètres.
Ah bon?
Et il nous reste, Marie, un petit peu de temps pour un mot d'enfant.
C'est le temps de l'Halloween. Fantômes, selon Ninette, 5 ans, ils existent, je les ai vus, ils s'envolent du café au lait de mon papa.
Alors... allez vous prendre vous-même un petit café, si ce n'est pas déjà fait. Et au retour, on vous parle d'une course dans les bois assez particulière et de recettes d'Halloween santé.
Oui.
Alors, à bientôt.
Cache ton cul dans tes caleçons, cache tes jambes en pantalon, cache cache ton torse en chandail, mais assure-toi que c'est la bonne taille.
Damien Robitaille et sa chanson « On est né nu ».
Alors on repart.
Oui, tu te lances
prête, hein?
Déjà,
j'étais
oui.
Je prête, est-ce que tu me donnes
la
permission?
J'avais une belle introduction.
Vas-y, je te laisse faire ton introduction.
Alors, cet été, on a vécu un événement qui a fait réfléchir plein de monde. Hein. Il y a beaucoup de réfugiés qui se sont présentés au poste de l'école en particulier. Mm-hmm. Et on a été très préoccupés comment on allait les recevoir. Mm-hmm. Mais il y a une conséquence plus longue, ça, c'est qu'il y avait des enfants qui venaient avec ces gens-là.
Et donc?
Il faut les placer quelque part.
Et donc, le nombre de classes d'accueil bondit à Montréal. C'est un texte de Marie-Ève Maurras qui a été publié dans la presse plus le 23 octobre. Habitué à composer avec la surpopulation dans les écoles, les commissions scolaires de la région montréalaise, parce qu'on parle surtout de ces commissions scolaires-là, doivent faire face à un nombre impressionnant de nouveaux arrivants cette année, parmi lesquels figurent des demandeurs d'asile qui ont traversé la frontière à pied tout l'été. Le coordonnateur aux communautés culturelles de la commission scolaire de la Pointe de l'Île, communément appelée pour les gens du milieu, la CSPI.
Maintenant, on le sait, on fait partie des gens du milieu maintenant.
Était en vacances quand il a vu aux informations les migrants haïtiens franchir la frontière canado-américaine en juillet et en août. Il a immédiatement su que la rentrée serait changée. De fait, beaucoup de ces demandeurs d'asile se sont installés à Montréal-Nord, dans le nord-est de Montréal, où vit une importante communauté haïtienne. Mm-hmm. Si bien que la commission scolaire qui gère les écoles de ce secteur a reçu cet automne plus de 500 enfants demandeurs d'asile, dont les trois quarts environ sont d'origine haïtienne. La plupart sont arrivés à la mi-septembre. C'est une école primaire au complet,
oui.
Dit Yves Laviolette. On a plus que doublé le nombre d'élèves dans les classes d'accueil de Montréal-Nord, et c'est toujours M. Laviolette qui parle, je n'ai jamais vu ça de ma carrière. Et c'est sans compter ceux qui ont suivi le processus normal de l'immigration qui continue à arriver. L'homme a beau gérer les classes d'accueil depuis plus d'une décennie dans cette commission scolaire, il n'avait pas mesuré l'ampleur de ce qui l'attendait à la rentrée. Il dit « Quand j'ai vu en janvier que des gens passaient la frontière à moins 20 degrés Celsius au risque d'avoir des engelures, je me suis dit « on va avoir une augmentation de clientèle ». J'ai été optimiste, j'ai prévu 30 % d'augmentation dans Montréal-Nord. Et mes collègues me disaient, es-tu sûr? Mm-hmm. Et finalement, c'est 130 % d'augmentation.
Oui, mais on ne connaissait pas l'été à ce moment-là.
Non, évidemment. Mm-hmm. Contrairement aux élèves arrivés au Québec au lendemain du tremblement de terre qui a secoué Haïti en 2010, ceux qui se présentent dans les écoles ces mois-ci ont besoin d'un suivi moins serré. Ils n'ont pas connu la guerre. Ils sont partis vite de chez eux, mais pas aussi en catastrophe qu'on pourrait penser, dit toujours M. Laviolette.
Est-ce qu'on peut compter sur le fait qu'ils sont francophones, qu'ils comprennent le français, même s'ils arrivent des États-Unis?
Pas nécessairement.
Pas nécessairement.
Pas nécessairement, non. Ils ont attendu, et je continue donc la citation de M. Laviolette, ils ont attendu la fin de l'année scolaire. Ils sont arrivés avec les bulletins et les dossiers des enfants, donc il y avait quand même une certaine préparation. Les classes d'accueil, officiellement appelées classes d'intégration linguistique scolaire et sociale, sont des lieux de passage, le temps que la maîtrise du français de ces élèves soit suffisante pour qu'ils puissent intégrer une classe ordinaire. En général, les enfants passent 1 ou 2 ans dans ces classes d'accueil. En plus de leur apprendre le français, les professeurs des classes d'accueil font office de guide dans la nouvelle société d'accueil de ces enfants. L'école, ça ne se fait pas pareil partout dans le monde. Il faut habituer les élèves à travailler comme on travaille ici. On a par exemple un test du secondaire où une question dit « commence par « d'après toi ». Et il y a des élèves qui sont démunis parce qu'ils ne comprennent pas le sens de la question. Ils ne sont pas habitués à répondre à des questions où on leur demande ce qu'ils pensent d'une situation. Ils sont davantage habitués à répondre à des questions qui touchent les connaissances ou le par cœur.
Okay.
Suzanne Jarry est enseignante depuis 30 ans. Je la salue parce que je la connais personnellement. Elle désigne 2 élèves d'origine haïtienne de sa classe d'accueil de première année de l'école primaire Saint-Vincent-Marie qui sont arrivés à Montréal il y a 3 semaines à peine. Pour eux, dit-elle, c'est pas facile. Pourtant, elle sait que dans quelques semaines tout au plus, ils auront fait de grands progrès. On travaille fort pour qu'ils puissent parler et s'exprimer. Plus les élèves sont jeunes, plus ils apprennent vite, note la directrice adjointe de l'école, Mme Myrna Dupoux. Dans sa classe de 3e et 4e année, l'enseignante Annie Tremblay jette un regard tendre sur son groupe. Ils apprennent super rapidement, sont bons, dit-elle. Et puis, elle aide Hassan, un jeune Libanais, à trouver la signification du mot « ciel » qu'il ne comprend pas. Elle fait un grand geste vers le plafond et elle ajoute « c'est tout bleu ».« Sky », dit timidement Hassan. « Ciel », répète-t-il. La commission scolaire de la Pointe-de-l'Île compte 68 classes d'accueil réparties dans ses écoles cette année, soit 21 classes de plus que l'an dernier. C'est cette commission scolaire qui a vu la plus grande arrivée de demandeurs d'asile, mais il n'y a pas que dans le nord-est de Montréal que de nouvelles classes d'accueil ont dû être ouvertes cet automne. La commission scolaire de Montréal compte 42 groupes de plus que l'an dernier, à pareille date, et a inscrit depuis le 1er juillet 274 demandeurs d'asile. Et la commission scolaire Marguerite Bourgeois, la CSMB, a aussi vu une augmentation de ses classes d'accueil qui sont au nombre de 201, soit 27 classes de plus que l'an dernier. Les demandeurs d'asile ne sont pas la cause de cette hausse, précise toutefois la présidente de la CSMB. Ils font partie de notre clientèle, mais ce ne sont pas eux qui ont fait une différence, dit Mme Diane Lamarche-Venne. Alors, c'était un texte de Marie-Ève Maurras qui a été publié dans la Presse Plus le 23 octobre.
Alors, le prochain texte dans l'émission... je pense que je n'ai pas nommé l'émission.
Ben non.
Alors, vous êtes au Voix de service magazine.
Ben oui.
Avec Marie Lalande et Yvan Deslauriers. Et on continue sur une expérience vraiment fascinante. Ça s'est passé à Bromont il y a 2 semaines. Qui a dit que la course en montagne était inaccessible aux personnes en fauteuil roulant? C'est le sujet de l'article « Bromont Ultra, sensation forte entre roche et racine » qu'a écrit Sophie Allard dans la Presse du 22 octobre. Il est 5h30 du matin. Il fait nuit noire au pied du mont Oak. Des dizaines de coureurs, lampes frontales vissées sur la tête, sont enfoncés dans les bois, sillonnant les sentiers escarpés du Bromont Ultra. De petits points lumineux apparaissent au loin sur le vallon. L'équipe de Yann Martin, paraplégique, approche. Tous ont la langue à terre, le sourire aux lèvres. J'adore la dose d'adrénaline qui vient avec le fait de se lancer dans le bois en pleine nuit. Je suis du premier départ à 3h30. On ne voit presque rien. Je laisse ma sécurité entre les mains de mes coéquipiers. On se parle beaucoup, confie Yann Martin, 33 ans. L'homme a perdu l'usage de ses jambes à 17 ans dans un accident de voiture. Je ne peux plus aller me promener en montagne à cette vitesse, de cette façon. Grâce aux bénévoles, c'est maintenant possible autrement. Tout au long de l'événement, une douzaine de personnes avec un handicap physique participent à la course de 80 km à relais grâce à l'initiative de la Fondation des sports adaptés, le FSA. C'est une de mes idées de fou. J'improvise et je me retrouve les deux pieds dedans, lance Charbonneau, Steve Charbonneau, qui est un ancien joueur des Alouettes de Montréal, qui est maintenant directeur général de la FSA. Je voulais absolument donner accès à la montagne aux personnes handicapées, leur faire vivre une expérience hors du commun, unique au Québec. Inspiré par le travail des Sherpas dans l'Himalaya, l'ancien joueur des Alouettes, au moment où les Alouettes gagnaient d'ailleurs, a imaginé un bolide adapté à la montagne. Avec un ami, il a conçu un prototype en 2015 qu'il a appelé Dahu. C'est le nom d'un animal de montagne imaginaire, nous souligne-t-il. Moi, on m'avait raconté que le Dahu, ça avait des pattes courtes sur le côté gauche parce que ça faisait toujours le tour de la montagne du même côté. Enfin, le Dahu...
Légende.
Légende, même pas urbaine. Non. Le Dahu est un fauteuil à deux roues, fait d'aluminium, étroit, léger, muni de grandes poignées. Une version améliorée, mise au point par des ingénieurs de Senneterre, est testée aujourd'hui à l'occasion de la troisième participation de la FSA au Bromont Ultra. Ce sont des trails extrêmes. Une équipe de 6 coureurs pousse et tire le fauteuil. Chacun change de rôle à tous les 100 pieds. Le participant est attaché à l'aide de ceintures de sécurité, de sangles, de rubans adhésifs. Chaque équipe fait une boucle de 6 km ou plusieurs boucles sur une distance totale de 80 km. Une centaine de coureurs bénévoles se relaient sur les sentiers jusqu'à 16 heures aux côtés des participants de la FSA. Alain Côté, pas le joueur de hockey,
non,
ancien combattant et marathonien, est un de ceux-là. Il est 6h30. Il vient de vivre son baptême. Je pensais que ça serait « a walk in the park », une promenade. Je suis encore sous le choc. Il n'y a pas de point mort, c'est très accidenté. Il faut retenir le fauteuil dans les descentes, j'espère, le pousser dans les montées. Il y a beaucoup de racines, de rochers, ça glisse, il fait noir en maudit, on s'est même perdu, on donne le sourire aux gens, ça vaut le coup.
Mais âme sensible, s'abstenir.
Il faut vraiment aimer ça.
Oui, il faut vouloir.
Sébastien Boisvert, 37 ans, attend son tour. Il a perdu ses jambes lors d'un accident de travail. Il a été coincé sous un bloc de granit pendant 3 heures.
Aïe.
J'ai été conscient tout le long. Le premier mois a été l'enfer, mais après, je me suis lancé dans les sports. Le hockey luge, le vélo, le ski nautique. Ça ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort. Sur les sentiers, Sébastien encourage ses coéquipiers. Il participe en poussant à l'aide de bâtons de ski modifiés. « Go, go, go !» leur lance-t-il. Il est le bout en train du groupe. On a pris un virage trop serré. J'ai perdu mes jambes en chemin, blague-t-il. Tous s'exclavent. Qui a vu mes souliers? Demande-t-il au retour. Vers 10 heures, la pluie tombe drue. Comme si c'était pas assez, il pleut.
Ah.
C'est rough avec les racines et les roches. Il y a des risques de tomber. On se fait brasser, commente Sébastien. Les dahus sont malmenés. Les relais ressemblent davantage à des arrêts au puits. Pour Marie-Chantal Salvas, 41 ans, l'expérience est particulièrement émouvante cette année. Son mari, Steve Falardeau, et ses fils, Justin et Simon, courront à ses côtés. Cette avocate est devenue quadraplégique il y a 2 ans lors d'un voyage en Californie. Une vague a cassé dans son cou. « Je me suis senti tourner dans un tourbillon de vagues. J'ai vu un tunnel blanc et je croyais que j'étais morte. Quelqu'un est venu me chercher alors que je flottais. » Elle a été hospitalisée pendant 1 an. Elle est en réadaptation. Elle a de nombreux rendez-vous médicaux et elle reçoit 40 heures de soins par semaine. Ma vie a été complètement chambardée. Avant l'accident, elle faisait 2 heures de sport chaque jour. J'essaie de retrouver ses sensations. Et cette virée en Dahu? C'était un mélange de joie et de nostalgie. Les garçons ont couru tout le parcours avec nous. Ils étaient même en avant et trouvaient que ça n'allait pas assez vite. Ils ont aussi tiré le dahut avec leur père. C'était très émouvant de voir toute la famille impliquée dans la course avec moi. L'an prochain, des amis ont promis de se joindre au groupe. La fondation, c'est mon petit bonheur, la lumière dont j'ai besoin.
Ah, c'est formidable.
Alors, c'était des extraits, parce qu'il y a plusieurs témoignages encore que j'ai dû sauter, faute de temps. C'était de l'article « Bromont Ultra, sensations fortes entre roches et racines », écrit par Sophie Allard dans la presse du 22 octobre. Alors, c'est la partie culinaire de l'émission.
Voilà.
L'Halloween s'approche.
Oui, c'est mardi prochain.
Mardi prochain. Normalement, Halloween veut dire bonbons, cochonneries, oui, etc.
Oui, mais aussi autre chose.
Et ça a l'air qu'il va y avoir d'autres choses.
Aussi autre chose. Donc, alors, quatre idées.
Vas-y.
Pour une Halloween aux couleurs de la saine alimentation, l'article dit « à l'école ». Moi, je dis « à la maison » aussi parce que c'est des idées pour les parents. C'est un texte d'Hélène Guéraud, diététiste et nutritionniste, qui a été publié sur le site 100degrés.ca le 16 octobre. Qu'on le veuille ou non, l'Halloween est synonyme de bonbons.
Oui.
Il est impossible d'y échapper. Puis pourquoi le ferait-on?
C'est d'ailleurs malheureux que nos enfants soient trop vieux maintenant.
Ah ah! Et quel plaisir de voir les enfants anticiper la récolte, puis savourer leurs friandises dans une ambiance festive ou terrifiante, c'est selon. Mm-hmm. Mais pourquoi laisser les aliments nutritifs en reste? Et c'est la nutritionniste diététiste qui pose la question. On a au contraire tout avantage à les inviter à cette fête qui représente une occasion privilégiée de les associer au plaisir. À ce chapitre, l'école et les parents peuvent donner l'exemple. Voici quatre idées pour y arriver. Idée numéro 1, créativité. Pourquoi se limiter à la citrouille? Qui a dit que seule la citrouille avait le droit de revêtir un masque terrifiant ou rigolo? Une panoplie d'aliments peuvent se prêter à la réalisation de sculptures créatives sur le thème de l'Halloween. Le poivron orange imitera la citrouille et la pomme rouge deviendra sa cousine ensanglantée. Pensez aux graines de la grenade ou à des grains de maïs pour une belle bouche édentée.
Aïe, aïe, aïe.
Des tranches de concombre pourront former la colonne vertébrale d'un squelette, alors que des bâtonnets de céleri et de carottes représenteront ses bras et ses jambes, et que des lanières de poivron dessineront merveilleusement ses côtes. Sa tête, le bol de hummus avec des olives noires en guise d'yeux. La seule limite est celle de l'imagination des enfants à vos marques prêts, créées et dégustées. Idée numéro 2, j'espère vous convaincre d'ici la fin. Ça se mange comme des bonbons sans en être. Celle-là est intéressante, oui. Okay. Des aliments nutritifs qui procurent autant de plaisir que les bonbons et qui se mangent avec les doigts, est-ce que ça se peut? Faites redécouvrir aux élèves des aliments qu'ils connaissent déjà. Les bleuets, les framboises, les raisins, dégustés congelés. Change de la routine, ce qui amuse les enfants. Osez encore plus en faisant la même chose avec des petits pois verts, du maïs soufflé nature, des mini-cubes de différents fromages et des croustilles de pita cuites au four peuvent aussi être de la partie. Idée numéro 3, un dîner ou une collation à trembler de peur. À partir des aliments nutritifs de leur dîner ou de leur collation, les élèves inventent une histoire de peur amusante. Pour nourrir leur imagination, racontez-leur la fois où, en allant aux pommes, vous avez croisé un zombie nain un peu bizarre.
Un zombie nain. Ah bon?
Un peu bizarre qui n'arrêtait pas de venir vous prendre des bouchées dans les pommes de votre panier. Imitez son petit rire méchant et sa voix d'outre-tombe. Ça prendra un effet d'écho aussi. Quand il vous a dit qu'il aimait tellement les pommes qu'il pouvait manger un verger entier dans une journée, finalement, expliquez-leur que vous l'avez amadoué en concoctant une petite croustade juste pour lui. Ni vu ni connu, vous aurez abordé la provenance de la pomme, son bon goût et une façon de la prêter. Laissez aller votre imagination et explorez d'autres aliments. les enfants pourraient vous surprendre par ce qu'ils vous apprendront. Et la dernière suggestion, une activité culinaire de sorcière. Sur la thématique de la soupe à la sorcière, organisez un atelier culinaire au cours duquel chaque enfant crée sa petite soupe à partir d'ingrédients simples. Alors, ça nous prend du bouillon sans sel, ajouté, ou de l'eau, des tomates broyées en conserve, des légumes qui cuisent rapidement, par exemple des carottes râpées, des tomates coupées en petits dés, du céleri haché, de l'oignon vert émincé, des grains de maïs ou des petits pois verts surgelés. Des légumineuses en conserve, égouttées, rincées, par exemple des haricots noirs ou rouges, des pois chiches. Des fines herbes fraîches ou séchées au choix, basilic, origan, blablabla. Poudre d'ail pour donner un petit peu de goût. Des nouilles à soupe fines et petites et du parmesan râpé.
Je pensais que c'était pour éloigner les vampires.
Oui, aussi, évidemment. Chaque enfant place dans sa tasse, qui va au four à micro-ondes, une cuillerée à soupe de tomates broyées, une cuillerée à soupe des 5 autres ingrédients, légumes, légumineuses, nouilles, de même qu'un quart de cuillerée à thé de fines herbes fraîches de son choix. Chaque enfant recouvre sa tasse de pellicule plastique. L'adulte réchauffe ensuite de 6 à 8 futures soupes, et si on est dans une classe, évidemment, là, à la fois, au four et à micro-ondes pendant environ 4 minutes. Après avoir retiré temporairement la pellicule plastique, l'adulte verse une demi-tasse d'eau ou de bouillon bouillant dans chaque tasse, puis remet la pellicule avant de laisser reposer une dizaine de minutes. Attention, on utilise des gants de cuisine et on ne laisse pas les enfants manipuler la tasse chauffée. Pendant la préparation et la dégustation de la recette, on s'amuse à associer les ingrédients à ceux d'une potion magique terrifiante. Mm-hmm. Par exemple, les nouilles, c'est des petits asticots. Les grains de maïs, des dents du squelette. Et les légumineuses, des yeux de vipère. J'ajoute, miam. La saine alimentation ne prend pas congé pendant les fêtes ou les occasions spéciales. Si tous les aliments peuvent faire partie d'une saine alimentation, les aliments nutritifs ont toujours leur place. Ainsi, en participant à des activités agréables qui les exposent à des aliments nutritifs, les enfants apprendront plus facilement à les apprécier, à les aimer et à les découvrir, puis à découvrir aussi comment les cuisiner. Alors, je répète, c'est un texte d'Hélène Gaillot, publié sur le site 100degrés.ca.
On peut-tu avoir quelques bonbons?
Évidemment.
OK. Alors, un petit sprint pour 3 minutes. Je vous parle de vélo en bois fabriqué à partir de fûts de whisky. C'est dans le magazine Espace que j'ai trouvé ça. C'est fait par Renovo Hardwood Bicycles, qui est un manufacturier de Portland en Oregon, qui se spécialise dans la fabrication à la main de vélos en bois plus durables et même plus beaux que les vélos traditionnels. Le fabricant s'est récemment associé à un producteur de whisky écossais, Glen Morangi, pour transformer les fûts de chêne utilisés dans le vieillissement de ce spiritueux en cadre de vélo, et le résultat est un régal pour les yeux. C'est donc un vélo racé qui peut supporter n'importe quelle aventure sur les routes les plus rugueuses. Si vous désirez acquérir ce vélo, faites vite, car seulement 50 modèles seront fabriqués. Ils seront vendus au prix de 8 679 $ canadiens uniquement sur le site de l'entreprise. Chaque vélo est livré avec des outils de montage et une mini-pompe. Ça doit être comme Ikea, j'imagine.
Oui, c'est ça. Puis c'est le fun, il roule en zigzag.
Oui, c'est effectivement. Ça.
C'est parfait.
Alors, Marie, c'est toi.
L'institution, la bibliothèque publique, l'institution oui. culturelle la plus fréquentée au Québec, 27 195 210 nombre d'entrées en 2015 par rapport au cinéma. Ou aux salles de spectacle qui, étonnamment, en ont beaucoup moins. Et savez-vous qu'un bébé sur 5 est abonné à sa bibliothèque publique grâce au programme Une naissance, un livre? C'est parfait! Je vous donne une autre statistique, tiens. Un succès indéniable, le livre numérique en bibliothèque publique. 1 445 766 livres numériques empruntés sur prêtnumérique.ca en 2016. C'est quand même pas rien.
J'ai quelques instants avant que tu fasses les mots d'enfant. Mm-hmm. La semaine prochaine, Je ne pourrai pas être là.
Oui,
il y a des élections
solo.
Municipales, alors je travaille aux élections municipales et Monique sera toujours en vacances, alors
oui.
Tu seras en solo.
Oui.
Et dans deux semaines, on sera là, tout
les
le monde,
trois.
Les
ouais.
trois. Et maintenant, c'est à toi, Marie, avec les mots d'enfant.
Évidemment, de circonstances. Croque-mort, selon Linette, c'est un monsieur habillé en noir qui fait toujours une tête d'enterrement.
Bien sûr.
Et la mort, selon Anne, 8 ans et demi, c'est un moment qui dure toute la vie, celle d'après, évidemment.
Bien sûr.
Alors,
on vous laisse là-dessus jusqu'à la semaine prochaine. Entre-temps, sachez que c'est l'Halloween mardi prochain.
Et bonne semaine!
Bonne semaine! Vous pouvez faire des choses en santé, des choses, des bonbons aussi. Et nous, on se prépare pour vous raconter plein de bonnes histoires, Marie en particulier, dès la semaine prochaine. Alors, bonne fin de journée.